les chrétiens du Moyen-Orient.
Et le fils de Pélée, prenant le vieillard par la main, le repoussa doucement, et ils se souvenaient tous deux. Et Priam, prosterné aux pieds d'Achille, pleurait de toutes ses larmes le tueur d'hommes, Hector. Et Achille pleurait son père, et leurs gémissements retentissaient sous la tente.
C'était à Troie. Troie en Asie mineure, la région où se sont tenus plus tard les premiers conciles écuméniques du christianisme. 8 ans après le génocide arménien de 1915, les Grecs en furent expulsés par l'épuration ethnique turque. Fatal début d'un siècle de fer. C'est à Troie que Priam, après avoir vu le vainqueur traîner le vaincu face contre terre derrière son char, avait cherché à rompre le cycle de l'horreur, à marquer une frontière entre humanité et inhumanité en invoquant la piété. Tel Priam, les chrétiens du Moyen-Orient se sont voulus des médiateurs. Minoritaires, ne disposant pas de moyens militaires, leur vocation était de tracer des traits d'union. La complexité de cette position les a longtemps maintenus dans un état de constant rescapé. Elle provoque maintenant leur élimination. L'affrontement brutal des confessions tel qu'il a été programmé au Moyen-Orient ne leur laisse plus d'espace. Ils sont des hommes en trop. Avec leur effacement du Moyen-Orient, c'est l'histoire qui est aussi décrétée en trop. Sans eux, le récit des origines ne sera plus possible. Et à l'avenir, ils manqueront définitivement aux forces transformatrices du monde musulman.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Jean-François Colosimo, bonjour.
Bonjour.
À qui j'ai repris ce titre, Les hommes en trop. Vous consacrez un brillant essai avec un grand parcours cavalier à cette question que vous connaissez bien. Je précise que vous êtes orthodoxe, professeur dans cette haute maison de l'orthodoxie à Paris qu'est l'Institut Saint-Serge.
Absolument.
Et nouveau patron des indispensables éditions du CERF qui sont catholiques.
C'est vrai, mais voyez, les chrétiens d'Orient nous apprennent qu'il y a une forme d'œcuménisme dans le martyr, dans la souffrance. On n'en est pas là encore en France, c'est certain. Mais ce témoignage-là, en fait, il nous renvoie aux sources mêmes du christianisme, que l'on soit croyant ou qu'on ne soit pas. C'est la matrice de notre culture, elle est là-bas, en Orient. Le christianisme a d'abord été une religion orientale avant d'être une religion occidentale.
Écuménisme de la souffrance, le pape François parle même d'écuménisme du sang. Mais avant que ne se resserrent les liens par un effet d'accélération qui est lié aux difficultés que connaissent les chrétiens d'Orient, il faut quand même reconnaître que des failles très anciennes jouent entre eux, des divisions liées au premier concile écuménique, avant même la séparation de l'orthodoxie et du catholicisme, avant même la réforme protestante. Il y a combien de dénominations chrétiennes à Jérusalem ?
Il y a 49 dénominations, à peu près 50. On n'est pas encore arrivé à 50. Peut-être, au même moment où je parle, on en est à 50. Il faut savoir qu'en fait, toutes les confessions chrétiennes se retrouvent en Orient, les orthodoxes de toutes sortes, les catholiques orientaux, les catholiques latins, les protestants, luthériens, calvinistes, et puis aussi les évangéliques désormais.
Alors, les plus importantes églises du catholicisme ont la garde du Saint-Sépulcre à Jérusalem.
6 communautés chrétiennes se partagent la garde du Saint-Sépulcre après des siècles de disputes et d'échanges d'arguments parfois frappants. Principaux propriétaires, les Grecs, puis les Latins et les Arméniens. Propriétaires mineurs, les Syriens, les Coptes et les Éthiopiens. Un jour est fixé à chaque communauté pour qu'elle accède au sépulcre enfermé dans l'édicule de la rotonde. Chacun a sa chapelle, son nombre autorisé de lampes, ses emplacements. Les Éthiopiens, eux, ont pris place sur le toit de la basilique. Ils y vivent dans le champ des oiseaux. Devant les sortes de niches qui leur servent d'habitation, on les voit prier ou méditer au soleil.
Bien sûr, il y a quelque chose de déchirant pour un chrétien de voir que le visage du Christ est présenté, je dirais, balafré, taché, souillé par la désunion à l'endroit même des lieux saints. Je me dis qu'après tout, sur cette terre, nous n'approchons jamais l'unité qu'à travers la contradiction. C'est le destin humain. La plupart du temps, nous percevons les choses par leur contraire ou à travers la contradiction. Et le fait que, sur le territoire des lieux saints, l'unité soit présentée par son contraire, qui est une désunion provisoire ou une tension vers l'unité qui n'est pas encore accomplie, je pense que ça fait réfléchir et ça nous invite à aller de l'avant. Nous ne sommes pas installés dans une situation triomphale d'unité déjà réalisée, nous sommes invités à dépasser sans cesse tous les principes de contradiction qui existent entre nous.
Les catholiques, les orthodoxes, les autres, au Saint-Sépulcre, c'était un reportage du regretté Georges Walter qui vient de nous quitter, qui interrogeait le regretté Père Dubois qui vient aussi de nous quitter et qui dit que l'union peut être une tension positive. Le sort des chrétiens du Moyen-Orient a été d'être diasporique, segmenté, cheminant souterrainement à partir de l'avènement de l'islam.
Bien sûr, à partir du 7e siècle, à partir du moment où les cavaliers de Mahomet sortent de la péninsule, et petit à petit vont prendre Alexandrie, l'Égypte, vont prendre Jérusalem, vont prendre Damas, et puis plus loin, et ce, jusqu'au 15e siècle, où finalement les Ottomans, les Turcs, s'emparent de Constantinople, la ville reine, la seconde Rome. En fait, ce que l'on voit, c'est que ces populations à la fois sont fixées, congelées en quelque sorte, parce qu'elles vont vivre la dimitude, cet apartheid religieux qui en fait leur interdit une existence politique, et en même temps, elles vont se disséminer. Et en fait, bon, il y a évidemment des dominations. L'Égypte est copte, l'Irak est chaldéen, la Syrie, elle est grecque orthodoxe, le Liban, il est plutôt maronite. Mais en même temps, on trouve de ces chrétiens d'Orient partout parce qu'ils vivent alors dans un empire. Et cet empire, qui est l'héritier de l'empire byzantin, qui se nomme l'empire ottoman, en fait, va permettre une fantastique circulation, ce qui fait qu'on va retrouver des Grecs orthodoxes à côté des Coptes, que l'on va retrouver des Chaldéens ou des Maronites à côté des Arméniens. Et puis, vous voyez, une ville magnifique dont on voit aujourd'hui le tragique sort, la catastrophe inouïe, Alep. Le quartier chrétien d'Alep, c'est une petite Jérusalem. Parce que toutes ces chrétientés historiques, orientales, sont là, côte à côte. Elles ne se sont jamais trop mêlées. Aujourd'hui, elles doivent faire face au même malheur. C'est la nouveauté.
Ces communautés bénéficient dans l'Empire de la protection de puissances européennes. On pourrait parler de l'exemple français de Louis XIV à la Troisième République en passant par Napoléon III. Mais ce qui vous intéresse particulièrement dans votre essai, Les hommes en trop, Jean-François Colissimo, c'est le moment où, profitant de la décomposition de l'Empire ottoman, les puissances européennes ont fait des promesses d'émancipation aux chrétiens qu'évidemment elles n'ont pas tenues.
Non, elles n'ont pas tenues parce que effectivement l'Empire ottoman, cet homme malade de l'Europe, est l'enjeu de trois grandes puissances, la France, la Grande-Bretagne et la Russie principalement. Qui va en fait s'installer dans l'Empire ottoman parce que c'est la voie évidemment vers l'Asie. Alors la lutte est telle que entre la France et la Russie advient la guerre de Crimée. La guerre de Crimée, elle débute à Bethléem lorsque des moines franciscains et des moines grecs se battent pour 10 cm carrés de l'église de Bethléem, n'est-ce pas ?
1854.
Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que chacune de ces puissances va pousser les peuples qui sont issus de ces églises en leur disant « Nous allons vous donner une nation, un territoire, prenez-la. » Les Arméniens par les Russes. Ça finit par le génocide de 1915. 1 600 000 Arméniens exterminés. Ensuite, il y a les Grecs. Les Grecs, on les pousse à reconquérir Constantinople. La France est avec eux. D'un coup, elle découvre que Atatürk, finalement, est laïque, ce qui plaît à la République, alors que la Grèce est en train de sombrer dans une monarchie un peu délirante. On abandonne les Grecs, c'est l'échange des populations, 1923.
Alors qu'en 1920, la conférence de paix avait prévu de faire passer les responsables du génocide devant des procédures pour crimes contre l'humanité, qu'une république arménienne avait été proclamée à un moment, mais on est revenu en effet en 1923 là-dessus, au nom justement de la symétrie de Kemal Atatürk avec les idéaux européens, voire républicains français.
Lorsque, vers la fin de la guerre 14-18, le grand empire ottoman s'effondra, vaincu par les troupes alliées, un chef réaliste et combatif résolut de donner un visage nouveau à son pays. Ce chef, c'était Mustafa Kemal Atatürk. Le 29 octobre 1923, naît la République turque que Mustafa Kemal veut moderne et dynamique.
Mieux vaut dire ça que de reconnaître les responsabilités. La France a abandonné les Grecs à leur sort. Vous donniez la date, Jean-François Colosimo, 1923.
Un notable grec de Synassos, du nom de Séraphim Rizos, se souvient. à part quelques fanatiques et autres profiteurs, nos compatriotes turcs n'ont pas approuvé notre expulsion. Le malheur commun de la guerre, la misère, la faim, notre avenir incertain, nous ont rapprochés, en dépit des directions opposées de nos désirs et de nos espoirs, de nos deux nationalités et de nos deux religions. Notre soleil commun, notre ciel commun jour et nuit, notre mer commune, la terre, nous ont rapprochés lentement, imperceptiblement l'un de l'autre. Mon ami turc Ratsefendis m'a dit « Ne croyez pas, Effendi Serafim, que nous nous réjouissons de votre expulsion. Si nous pouvions, nous crierions « Arrêtez, laissez-les rester dans leur patrie. » Mais comment oser le dire? Je suis allé dire adieu à la mère de mon ami, je lui ai baisé la main, et elle m'a dit, émue, « Mon enfant, Effendi Serafim, faites-nous grâce si nous vous avons pris plus qu'il ne fallait, ou si nous ne vous avons pas donné assez. Que Dieu vous vienne en aide. Faites bon chemin. Nous ne vous enlèverons pas de notre mémoire. Ne nous enlevez pas de la vôtre. »
Un documentaire grec, Hiro Siafriaki, titré Synassos. Et après les Grecs d'Asie mineure, il y a les Assyriens. L'épuration ethnique turque va continuer.
Oui, mais si vous me permettez, Jean Lebrun, moi j'ai beaucoup d'émotions au sujet de Synassos, qui est un village que je connais bien, qui s'appelle aujourd'hui Mustafa Pacha, qui est tout près d'Urgup, en Cappadoce, et qui était appelé à cette époque-là l'Athènes de l'Asie mineure. Donc ce sont des mondes qui disparaissent. Mais on le voit, ce ne sont pas que des mondes, ce sont des fraternités. Alors évidemment, après ce drame grec, 1,6 million de personnes déportées par la Société des Nations, la première grande purification ethnique de l'histoire, endossée par la Société des Nations. On a quoi? On a les Assyriens. Ils sont autour de Mossoul. Mais voilà que la Grande-Bretagne a découvert du pétrole à Mossoul. Alors voilà aussi que la Grande-Bretagne a promis à la dynastie hachémite, la dynastie qui règne aujourd'hui sur la petite Jordanie, de faire un grand royaume arabe. Et on laisse les hachémites massacrer. Les Assyriens, c'est en 1932, ils ne s'en relèveront jamais.
Les hachémites qui, à l'époque, dominent quelle région?
Comment?
Les hachémites qui dominent quelle région à l'époque? Parce qu'ils n'ont pas encore le royaume qui est le
Levant. Ce qu'on peut appeler le Levant, c'est le pays de Cham, comme dirait aujourd'hui Daesh. C'est-à-dire, en fait, le conglomérat qu'on pourrait former à partir de Syrie, Irak et Jordanie.
L'hospitalité se réduit au pays de Cham. On faisait appel à un excellent documentaire de 1997. En voici un autre de 1999, signé Olivier Mille et Jean-François Colosimo. Vous êtes là, en Syrie, vous êtes dans les ruines de l'église où a vécu Saint-Siméon le stylite. Enfin, lui, il vivait sur une colonne, mais les ermites sont rarement longtemps seuls.
Oui, ça a été la plus grande église, en fait, du monde antique, avant Sainte-Sophie de Constantinople et avant Saint-Pierre de Rome, une église tout à fait magnifique dont il ne reste plus que des ruines aujourd'hui.
Vous avez filmé là Dimitri Koutilia.
Oui, alors, Saint-Siméon le stylite, il vit sur une colonne. Le monde entier vient le voir, parce qu'il veut être plus près du ciel. Vous savez, les moines orientaux, ils sont très pragmatiques. Ils entendent tout concrètement, être plus près du ciel. Donc on monte sur une colonne et on vit attaché par une chaîne. Lorsqu'il disparaît, un culte formidable se forme. Et Dimitri Koutilia, des siècles plus tard, face à cette colonne, chante un chant du Vendredi Saint, le Christ suspendu à la croix. Ce Dimitri Koutilia, il a étudié la musique en France. C'est un Libanais et il s'est beaucoup inspiré de toute la rue arabe pour apporter encore plus de mélisme, c'est-à-dire de circonvolution dans ce beau chant byzantin qui là est en arabe, pas en grec.
علق على خشبا الذي علق الأرض على المياه اليوم علق على خشبا الذي علق الأرض على المياه.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jean-François Colosimo, qui réalisait naguère un film avec Olivier Mille, dont voici un extrait. Mille vous disait « Ce que nous avons fait, personne d'autre ne pourra le refaire parce que ce monde va disparaître. » Vous titrez votre dernier livre sur le sujet chez Fayard, Jean-François Colosimo, « Les hommes en trop ». Avançons dans ce siècle de fer, à la suite des événements de la Seconde Guerre, après la constitution d'Israël en État, beaucoup de chrétiens vont jouer un rôle essentiel, essentiel, dans le réveil arabe.
On a écouté Dimitri Coutillien, on voit bien que cette arabité, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de race, c'est une question de culture, de langue. Et les chrétiens ont été indispensables à l'édification de cette arabité, même si elle est largement musulmane. Au XIXe siècle, ils vont voir les Arabes musulmans, ils leur disent « Vous êtes peut-être musulmans comme les Turcs, mais vous êtes surtout des Arabes comme nous. Alors faisons un grand espace déconfessionnalisé, laïque, social, soyons progressistes, devenons tous des citoyens de cette culture fondamentale qu'est pour nous l'arabité. » Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Là encore, les puissances occidentales, la France et la Grande-Bretagne, en 14-18, ont tracé des frontières partout pour faire des États-nations sur cette mosaïque. Et il va falloir que les chrétiens vivent dans ces États-nations en pleine rivalité Est-Ouest.
Oui, mais après la Deuxième Guerre mondiale, de nouvelles chances sont données. Alors, dans le mouvement national palestinien, il y a des chrétiens comme Georges Habash. Et puis, vous insistez évidemment beaucoup sur la création du parti Baas en 1947, Syrie-Irak, laquelle doit beaucoup à un chrétien, Michel Aflaq, que voici en français, on parle encore français, dans la région, peu après l'indépendance algérienne, une quinzaine donc d'années après la création du Baas, alors que les premières expériences d'union République arabe unie n'ont pas bien fonctionné.
Nous ressuscitons le vrai passé arabe ou l'essence vraie de la nation. J'ai conçu le problème arabe, la cause de ma nation comme une seule révolution à deux faces ou en même temps nationale et sociale. La révolution algérienne a fait preuve d'un esprit scientifique, ce dont la nouvelle union a grandement besoin. La première union a été plutôt improvisée. Maintenant, je peux dire que toute la nation arabe exige une étude sérieuse et réfléchie des bases de cette future union.
Un document de Charles-Henri Favreau de la télévision suisse romande qui semble surgir, et pas seulement à cause du son, du fond des âges, parce que ces régimes issus des révolutions nationales arabes n'ont pas été exactement ce qu'espérait le bassiste qu'on vient d'entendre, Michel Aflaq.
Mais son destin même le montre. Aflaq sera présumé s'être converti à l'islam avant de mourir. Alors on ne sait pas si c'est une ruse de Saddam Hussein et du régime irakien, si c'est en fait une forme de reddition aussi, ou alors si c'est une pure invention. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, les chrétiens ont parié sur ce mouvement panarabe. Ils se réveillent en fait entre des nationalismes étroits, entre des étatismes délirants et avec des régimes tyranniques. Dans ces régimes tyranniques, ils vont servir de faire-valoir minoritaire. C'est clair, Saddam Hussein est un sunnite, il n'a pas la majorité en Irak. Donc il va être une sorte de serviteur munificent des monastères chrétiens. Il va les rénover pour se faire bien voir. Et comme à peu près tous les potentats d'ailleurs de la région, il va se donner un ministre des Affaires étrangères chrétien, Tariq Aziz. Au même moment, ce n'est pas du tout évidemment les mêmes personnages, mais Boutros-Boutros-Ghali est le ministre de Sadat en Égypte. Ils vont, en fait, ces chrétiens, être traités de la même façon en Syrie. Parce que là, on a un régime alaouite, ultra-minoritaire, qui, contre la majorité sunnite, va les mettre en avant. Dans la Syrie, des Al-Assad, et Al-Assad père particulièrement, évidemment, les fêtes de Noël sont retranscrites, sont retransmises à la télévision d'État. Et il y a même une ligne budgétaire au ministère du Logement pour construire des églises. Mais en même temps, les chrétiens souffrent, effectivement, d'une espèce de statut de supplétif, pourrait-on dire, de la pseudo-liberté de ces régimes. Et puis surtout, ils se retrouvent pris entre Est et Ouest. Et là, c'est le drame palestinien. On parlait de Georges Habash, bientôt réfugié en Syrie, bientôt instrumentalisé dans la guerre de l'ombre entre l'URSS et les États-Unis. Donc c'est une grande catastrophe qui se joue peu à peu.
Pris entre Est et Ouest, dites-vous, Jean-François Colosimo. Je ne vais pas dire ce que vous expliquez des responsabilités britanniques et françaises. Ces deux pays se retirent peu à peu du Moyen-Orient. Mais insister sur les responsabilités américaines. Il vient un moment où dominent de toute leur taille les États-Unis. Et à ce moment, les États-Unis, dirigés par les néoconservateurs, qui ne sont pas de vos amis,
non,
pensent qu'on va pouvoir établir un chaos constructeur dans la région.
Je crois qu'ils disent même chaos créateur. Pas cette idée de creative chaos, comme ils disent. Alors l'idée, elle est très simple. Les États-Unis, ce qui sonne de glas des chrétiens d'Orient après la grande catastrophe de la guerre civile du Liban et l'aventurisme fou des maronites qui finiront par s'entretuer pour jouer au camp occidental.
Et là, pour une fois, là, les chrétiens ont choisi
de se battre.
Les armes.
Voilà, mais bon, ils sont très occidentalisés, très latinisés, ils sont à part, ils vont se battre, mais ils ne vont pas se battre de manière très raisonnable, ils vont finir par s'entretuer. Et à partir de ce moment-là, les pan-islamistes vont dire le pan-arabisme, c'est le cheval de Troie de la sécularisation. Et le pan-islamisme prend le dessus. Il se manifeste par les attentats du 11 septembre 2001. L'Amérique est obligée de répliquer. Elle veut territorialiser le conflit. Elle se rend en Irak. À bord des tanks, il y a des pasteurs prosélytes protestants en pagaille. Et si je puis dire, rebelote depuis les croisades, c'est la même histoire. Les chrétiens d'Orient sont désignés comme, en fait, la cinquième colonne de l'Occident. Ils vont être traités à partir de ce moment-là comme des collabos, alors que eux, au contraire, veulent être solidaires de leurs compatriotes et vivent l'invasion comme une invasion. C'est cette inversion totale qui explique le dérapage d'aujourd'hui, qui explique d'un coup l'extermination, l'exode, la catastrophe.
Alors avant les grandes catastrophes d'aujourd'hui, juste un fait qui illustre ce que vous dites du climat de croisade. Une croisade sans histoire, sans référence historique, sans connaissance exacte du passé et du territoire, qui fait des chrétiens une cinquième colonne. Vous avez été, beaucoup plus que les autres Français, attentifs à la mort en octobre 2007 dans la bande de Gaza de Rami Ayad, qui était libraire, et libraire touché par l'évangélisme. Il distribuait des bibles évangéliques. Il a été le premier chrétien enlevé dans la bande de Gaza, torturé et le premier assassiné.
Rami était un croyant évangélique, et cependant il officiait dans Gaza pour toutes sortes de confessions, orthodoxes, catholiques et baptistes. Et la réalité est que son décès constitue une énorme perte pour toute la communauté chrétienne de là-bas.
Les terroristes ont menacé et visé la Société de la Bible de Palestine ces derniers mois. En avril, un groupe a fait exploser une bombe juste devant la Société de la Bible de Palestine. La librairie, ouverte en 1999, est l'unique librairie chrétienne de la bande de Gaza.
Vous voyez, la librairie était au centre d'une paroisse qui dispensait des cours d'informatique, des cours d'anglais, mais aussi un soutien pour 400 à 500 familles dans Gaza même. C'était un formidable lieu d'entraide pour cette communauté chrétienne.
Un porte-parole du Hamas condamne ce meurtre, mais l'incident soulève la question de savoir si le gouvernement du Hamas est capable d'assurer la sécurité de ses citoyens d'origine chrétienne.
CWN 2007, le Hamas et l'autorité de Ramallah ont condamné, mais voici que les salafistes, on va dire salafistes pour faire simple, expliquent les chrétiens à Gaza, comme ailleurs dans la région, doivent renoncer à vouloir convertir les musulmans et être prêts à adopter la loi coranique.
Quelle chute sidérale ! Ils ont lutté, ces chrétiens, pour la liberté de tous et ils sont aujourd'hui soumis, en fait, à un impératif de captivité complète. C'est ça le problème. La charte de l'OLP, elle parlait de quoi ? Elle parlait de la liberté de toutes les spiritualités. La charte du Hamas, elle parle de quoi ? Elle parle de la charia. Gaza, cet îlot évidemment terrible pour tous ceux qui y vivent, est devenu particulièrement invivable pour les chrétiens parce qu'ils sont pris en étau, en tenaille, dans le conflit israélo-palestinien. Et il leur faut sans cesse faire de la surenchère. Alors ce pauvre libraire qui était en fait à l'origine orthodoxe et qui avait goûté à l'évangélisme, le voilà qui est tué. Il est tué parce qu'il est assimilé à l'Occident. Et en même temps, en Jordanie, de l'autre côté, les frères musulmans se donnent comme vice-président un chrétien. Alors voilà, c'est ça le sort des chrétiens. C'est soit être expulsé vers un Occident, je dirais armé, un Occident des croisades, soit être en quelque sorte des faire-valoir de l'avancée de la charia. C'est dans ce double mouvement que se joue leur perte aujourd'hui, et ça, c'est radicalement nouveau, c'est ça la nouveauté.
Alors vous dites que ce sont des boucs émissaires utiles d'un choc programmé, on ose dire, d'un choc de civilisation, où sont les civilisations là-dedans, et en même temps, ce sont des victimes que l'idéologie humanitaire occidentale ne peut pas reconnaître dans leur singularité.
Oui, parce que l'humanitaire a besoin d'être assez abstrait et comme l'humanitaire se joue en Occident, l'Occident et particulièrement l'Europe a du mal à... L'Europe, c'est une utopie qui a besoin d'avancer tout en niant son passé, pas simplement le christianisme, la Grèce antique. Hein, on a chassé Périclès du préambule de la Constitution européenne parce que Athènes était mère de l'ostracisme. Alors d'un coup, si on s'occupait des chrétiens, cela ferait identitaire. Ça gâcherait en quelque sorte cette conception assez immaculée de l'humanitaire. Mais le problème, c'est que les chrétiens sont des victimes comme les autres. C'est pas parce qu'ils sont des chrétiens qui seraient plus des victimes, et je récuse évidemment la volonté de les instrumentaliser. Très souvent, malheureusement, on ne les perçoit qu'à travers le prisme de la présence de l'islam en France et une espèce de revanchisme, de mouvement revanchard à leur sujet. Surtout pas ça. Ils sont des orientaux, ils sont chez eux, n'est-ce pas ? Et de l'autre côté, en même temps, ils sont réellement victimes aujourd'hui.
Ils sont chez eux, mais ils ne se transposent pas facilement. Vous citez le cinéma de Kazan. Alors les Grecs qui quittent leur terre d'origine et qui crient en arrivant aux États-Unis « America, America ». Et puis il y a ce film, « L'arrangement », où le père enterre le Grec qui est arrivé comme ça au son de la victoire sur le territoire américain. Et l'enterrement, c'est terrible.
Oui, l'enterrement c'est terrible parce que ce gars ne sait même plus signer. Il y a un prêtre qui est imberbe, vous savez, en Orient tous les prêtres sont barbus, n'est-ce pas ? Un prêtre imberbe qui récite avec un accent anglais des phrases en grec qu'il ne comprend pas, et tout ça dans un échangeur d'autoroute, un petit cimetière orthodoxe qui est pris dans cette folie des voitures et des klaxons. Le problème, c'est que lorsque, comme la France le fait, parfois en ayant quelque peu renoncé à ses véritables devoirs politiques, lorsqu'on se contente de faire du secours caritatif, d'accueillir des gens, de donner des visas, on va les accueillir ici. Mais ici, c'est un monde qu'ils ne connaissent pas, dans lequel leur sens de vie très communautaire va éclater. Et en fait, on va assurer leur survie matérielle, mais certainement pas leur survivance spirituelle. Et qui plus est, leur disparition là-bas est dramatique, d'abord pour tous les musulmans qui veulent un monde ouvert.
C'est-à-dire que les forces transformatrices du monde musulman perdent des alliés.
Perdent, je dirais, ce tiers indispensable. C'est une question de biodiversité.
Matthieu 8, c'est souvent... Marc 8, pardon. J'ai un professeur de théologie devant moi, c'est souvent cité par les églises en Orient. Le Christ reconnaît qu'on le suive. En portant sa croix, qui veut sauver sa vie la perdra, qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Imaginez que c'est quand même un langage difficile à entendre pour ceux qui voient justifier leur choix de rester par ce verset énigmatique. Mais néanmoins, je vous propose qu'on termine en entendant un chant en syriaque. Seigneur, prends pitié. Et c'est un chant qui a été enregistré à Karakoche, dont on parlait tout à l'heure dans le journal, à 30 km de Mossoul, une ville à la limite du Kurdistan irakien qui est tombée au mois d'août. La réalisation Stéphane Ronxin, à la technique Alex Abergel, Marion Philippe, Franck Olivar, Ilinka Negulesco, Frédéric Martin pour la préparation. Il est 14h, vous écoutez France Inter.